BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Tout pour investir, nouveau numéro qui commence maintenant. Bonjour, merci de nous être toujours aussi fidèles. TPI, en direct à la radio, sur la télé, sur le web, évidemment podcast et replay. En fin d'émission d'ailleurs, on regardera les rubriques qui vous ont le plus passionné cette semaine. Et sans vouloir déflorer le sujet, vous êtes vraiment passé en mode défensif. Et c'est un signe intéressant, mais c'est vraiment l'émission à votre service, hein, au service de vos finances personnelles qui vous aident à protéger vos investissements contre les tempêtes du moment. Autant dire qu'on est sur des marchés encore une fois très agités. On a une baisse d'1,5% du côté du CAC 40, mais alors on a une flambée du côté du pétrole, 115,90$ pour le Brent, et surtout du côté du gaz qui a ouvert en hausse de 30% sur les marchés européens ce matin. Le conflit en Iran qui commence à déborder un peu du scénario, et désormais le stress énergétique est maximal. Alors évidemment, quelles conséquences pour l'économie, pour la conjoncture qui reste évidemment problématique? Avant même de parler des effets de cette guerre en Iran, on a pu le voir hier dans le discours de la Fed. Puis surtout, quelles conséquences directes pour votre stratégie d'investissement, pour vos finances personnelles? On va mettre tout ça sur la table avec nos déchiffreurs du jour, Laurent Grassin de Boursorama et Marc Templeman de Cashbee. Arbitrage de court terme, toujours précieux, avec Mickaël Landreau aussi, qui assurera votre plan de trading du jour. Pas oublier les fondamentaux de vos finances personnelles aussi. Où en est-on du marché immobilier? Longtemps qu'on n'a pas fait le point là-dessus, hein, sur l'IMO. Point conjoncturel, hein, on en parlera dans la boîte à outils avec Marie-Christine Sonquin des Échos, les opportunités du moment aussi, bien sûr. On parlera du private equity. Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir un peu de l'euphorie en ce moment, après une période de frénésie? Et est-ce qu'on ne risque pas une certaine forme de gueule de bois sur un marché particulier, surtout en période de stress économique? On a besoin de liquidité, de fluidité dans nos placements, et ce n'est pas franchement le cas du private equity. Bah, point complet tout à l'heure avec les spécialistes d'Ivesta. Enfin, retour aux fondamentaux. Investir, investissement prestige, investissement plaisir. Comment investir dans les bijoux anciens? Une vraie optique patrimoniale qu'on vous propose avec deux experts aujourd'hui dans le coffre-fort. Souleymane Jangaladi, Matt Sapiens, que vous connaissez, et puis Virginie David, qui va nous faire découvrir tout ça. Elle est experte gémologue, donc vraiment une femme du métier. Vous pouvez nous envoyer vos questions par mail, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 73216, tapez le mot-clé business suite de votre message, ou vous pouvez me joindre directement sur X et sur LinkedIn. L'actualité du jour, bah les infrastructures énergétiques sont ciblées de toutes parts au Moyen-Orient maintenant. Escalade majeure qui a eu lieu depuis hier soir, et notamment le point de départ, c'est les frappes israéliennes sur l'immense champ gazier iranien de South Pars, qui appartient à la fois à l'Iran et au Qatar. De quoi faire redécoller les cours du gaz et du pétrole. Donc le baril de Brent, je vous en parlais, largement au-delà des $110 maintenant, 115,51. Le gaz plus 30 à l'ouverture. De quoi aussi pousser Téhéran, qui frappait déjà les infrastructures énergétiques du Golfe depuis le début de la guerre, à répliquer très très fort tout au long de la nuit. C'est en particulier la plus grosse usine de GNL au monde qui est prise pour cible au Qatar. Elle se retrouve clairement prise entre deux feux, hein, cette petite monarchie du Golfe. À noter qu'il y a eu également des explosions du côté du complexe pétrolifère en Arabie Saoudite. Réaction d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui dit avoir échangé avec l'émir du Qatar et le président Trump. Il propose un moratoire sans délai sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, énergétiques et hydrauliques. Dans le même temps, les États-Unis envisageraient un renforcement militaire en Iran pour la prochaine phase de leur opération, celle de sécurisation du détroit d'Ormuz, étape qui pourrait être gérée directement avec des troupes américaines au sol. La décision de la Fed hier soir, la Banque centrale américaine maintient ses taux inchangés, ça c'est pas une surprise, mais elle relève aussi sa prévision d'inflation aux États-Unis dans le sillage de la flambée des cours de l'énergie. Attention toutefois aux conclusions hâtives, prévient Jerome Powell, le président de la Fed. Jerome Powell qui, par ailleurs, a annoncé qu'il ne quittera pas la Fed avant la fin de la procédure judiciaire qu'il vise. Et aujourd'hui, c'est jour de BCE à Francfort, et puis sommet européen à Bruxelles. Donc, menu chargé, menu européen chargé. On va beaucoup parler des prix de l'énergie et du côté des chefs d'État, il s'agira notamment de plancher sur le marché de l'électricité, alors que la Commission veut accélérer la mise en œuvre de sa réforme qui vise à moins dépendre de la volatilité des marchés mondiaux. Vaste question. Allez, tout de suite, on regarde le tableau de bord de vos marchés. Ça s'affole un petit peu de tous les côtés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Ça s'affole, ça s'affole. Bon.
On est sur une baisse, d'accord, baisse sensible, hein, moins 1,5% quand même pour le CAC 40, on redescend à 7848 points, mais il faut dire qu'on sortait de 3 séances de hausse consécutives et que là, on a quand même une belle grosse disruption du côté de la guerre en Iran et donc ces frappes un petit peu de tous les côtés sur le complexe énergétique de la région. Donc du coup, les marchés perdent un petit peu leur sang-froid. À noter une très forte hausse des cours du baril de Brent, on en a parlé, 115,40 $. Les cours du gaz aussi en très très forte hausse. On était en hausse de 30% ce matin à l'ouverture des marchés européens. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe sur les indices européens? Mais on est en baisse un petit peu partout. Moins 1,86 d'ailleurs pour l'Eurostox 50. Le DAX à Francfort, plus de 2% de baisse. Qu'est-ce qui nous permet de surperformer légèrement cette performance des marchés européens? Ben, sont les très grosses capitalisations du CAC 40 et évidemment Total Energy qui gagne 2,4% à 77,23 €. Sanofi plus 0,7%, on est à 76,65 €. Publicis plus 0,17 à 72,10 €. Et Euronext plus 0,14 à 138,80 €. Ce sont les quatre seules hausses du CAC 40. Tout le reste est en baisse. Et en particulier Accor, hein, tout ce qui est tourisme, évidemment, perd beaucoup de terrain là en ce moment. Accor qui perd 9% à 38,21 €. On a, et ça, on le dit depuis des semaines, le titre le plus réactif à cette crise énergétique sur le CAC 40, c'est finalement ArcelorMittal, qui perd là encore moins 6% à 42,78 €. On a le secteur bancaire qui avait signé les meilleures performances du jour lors de la séance d'hier. Société Générale perd 3,5% à 65,10 €. Accor qui signe par-dessus le marché la plus forte baisse du SBF 120. Et la plus forte hausse, elle est pour Hexcel Technologies, hein, plus 2,9% à 148 €. Les marchés qui passent en mode défensif et qui regardent un petit peu le secteur de la défense et les opportunités en la matière. Tiens, juste un mot des indices de volatilité. On a les futurs sur l'indice VIX américain, l'indice de nervosité de la Bourse de Chicago, qui monte à 25 points. Ça reste encore mesuré. Enfin, attention, hein, les marchés sont quand même très, très perturbés. Le principal effet de tout ça, c'est aussi un effet de valeur refuge autour du dollar, encore une fois, qui grimpe. L'euro descend sous 1,15. On est à 1,1479 €. Et l'once d'or fin recule, mais alors très sensiblement, 4706 points. C'est la surprise depuis le début du conflit en Iran. Le dollar redevient valeur refuge et on liquide des positions sur l'or, alors que c'est la valeur refuge par excellence. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais les effets de change expliquent très clairement ça. Allez, on va déchiffrer tout ça avec nos déchiffreurs du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Marc Templeman de Cashbee, bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Grassin de Boursorama.
Bonjour Antoine.
Bonjour à vous deux. On va peut-être juste commencer par l'actualité chaude, brûlante. On a quand même un conflit qui est en train de sortir un petit peu des limites qu'on lui donnait au départ, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de décapiter le régime iranien, il n'est plus question du nucléaire iranien. Là, les Israéliens ont quand même ouvert une sacrée boîte de Pandore qui est d'aller taper directement l'Iran sur le secteur énergétique. Donc les Iraniens fous furieux qui répliquent sur tous les pays du coin et finalement cette forme de, entre guillemets, gentleman agreement au début qui était de ne pas toucher au secteur énergétique, là tout ça vole en éclats. Est-ce que vous pensez que on a eu une première flambée des cours du brut avec effectivement le détroit d'Hormuz. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'on est passé à une deuxième étape qui est all-in, on y va, ok, vous voulez la guerre, on va vous la faire, il n'y a pas de souci. Et spécifiquement sur ce terrain-là, pour bien bien mettre le bazar sur toute la planète, Marc Templeman, est-ce que vous pensez que là, on est en train de sortir du scénario de base?
Je pense qu'il y a énormément de dix spécialistes qui misaient sur un conflit court et que clairement ce qui se dessine c'est un conflit beaucoup plus long parce qu'on se rend compte que l'Iran n'a pas besoin d'énormément de moyens pour pouvoir nuire très fortement l'économie mondiale. Et je crois que c'est en gros la seule stratégie qui leur reste. Alors, je suis pas un spécialiste géopolitique, mais je partage la vision qui est que le scénario un peu rose initialement anticipé n'est plus vraiment compatible.
Laurent Grassin, nervosité maximale et peut-être justement là la matérialisation d'une deuxième phase.
Oui, et puis on l'avait déjà dit la semaine dernière, l'absence de lisibilité du scénario américain. Quels sont les objectifs que cherchent à atteindre les États-Unis? La sortie de Trump sur le détroit d'Hormuz et l'appel à ses alliés de l'OTAN, puis finalement on n'a pas besoin de bouffe. Donc on les sent pas du tout sereins sur ce qu'ils veulent faire. Et après, vous l'avez dit très justement Antoine, si on commence à taper les infrastructures pétrolières, ça a un effet direct sur les prix, mais ça a un effet de long terme, parce que remettre je crois que les dommages qui ont été enregistrés sur certaines certaines infrastructures sont déjà sérieux. Remettre en fonction des sites comme ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Ah non.
Quand un arrêt de production se fait, notamment sur des sites gaziers et autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en train de créer des déséquilibres à moyen long terme sur la chaîne de production. Donc oui, c'est pas bon du tout, d'autant que... alors là, on a l'impression que les États-Unis veulent calmer le jeu et sont en train de dire, attendez, il faut... Là aussi, soi-disant, Israël a attaqué le champ iranien, puis les États-Unis étaient visiblement avertis, puis plus avertis. On a beaucoup de mal à comprendre quelle est là aussi vis-à-vis de ces deux alliés la position et le partage d'informations.
Il y a un truc très particulier qui s'est passé sur ces frappes.
Exactement. Donc, ouais. Encore une fois, quand vous êtes sur les marchés, vous anticipez. Là, vous anticipez que vous maîtrisez pas vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a une conséquence directe sur les prix et on a le sentiment qu'on s'engage vers quelque chose où, oui, tant que les infrastructures n'étaient pas touchées, on avait toujours l'espoir d'une désescalade et que finalement, dans 2-3 mois, on pouvait revenir à business as usual. Là, ouais. Moi, j'ai plus ce sentiment-là aujourd'hui.
Puis surtout, il y avait ce sentiment que, voilà, tout sur l'Iran qui tape sur tout le monde. Et puis là, bah, Israël qui tape sur un truc qui appartient aussi au Qatar,
oui,
donc visiblement
oui.
Qui règle ses comptes
oui.
Avec
non,
avec
là c'est, enfin oui, c'est assez préoccupant. Faut le dire.
Bon, Mark Templeman, on a énormément de questions et on va le voir en fin d'émission sur les résultats un peu du top 4 des chroniques les plus téléchargées de Tout pour investir. J'aime bien parce que comme ça, on lit un petit peu les préférences des auditeurs, des téléspectateurs. On est clairement en mode défensif. Et la question, c'est comment je protège mes investissements. On commençait à le dire la semaine dernière et, si j'ai bonne mémoire, la fois d'avant. Mais voilà, cash is king. Est-ce qu'on revient à ce paradigme-là? On voit qu'en plus, il y a un phénomène de rapatriement des capitaux vers les valeurs exposées au dollar.
Oui.
Donc, est-ce que le cash devient une denrée qu'il va falloir sécuriser?
Alors, le cash fait toujours partie à plus ou moins, enfin dans des proportions plus ou moins grandes d'un portefeuille sensiblement construit, et il se trouve qu'en tout cas les professionnels, les investisseurs dits institutionnels, commencent à louer un peu plus d'argent à cette partie de leur portefeuille, sachant qu'un investisseur institutionnel, un gérant de fonds, actions, pour prendre un exemple, est censé investir dans des actions. Donc le fait que eux, qui au début de l'année étaient entre guillemets quasiment all-in et n'avaient que 3,2% de cash en moyenne dans leur portefeuille. Et aujourd'hui, ils en ont 4,3%, donc ça a augmenté relativement considérablement. C'est déjà un premier signe.
Ouais.
Il y a d'autres signaux. Ça faisait assez longtemps que des investisseurs très admirés comme Warren Buffett, qui certes a pris sa retraite, mais avant de le faire, avait déjà construit et fortement augmenté la partie qu'il avait en cash pour pouvoir justement faire des investissements le jour où de nouvelles opportunités se feraient jour. Et donc, je peux parfaitement comprendre qu'un épargnant qui manque de lisibilité, qui ne comprend pas nécessairement où va mener cette guerre, se dise « il faudrait peut-être augmenter une partie de la liquidité de mon portefeuille » avec un dernier argument qui va en faveur de cette évolution, qui est de se dire que le cash, il peut être déployé facilement à 3%, voire 4% en dollars. Peut être déployé à 2-3% en livres sterling et même en euros. Nous proposons des livrets à 5-10 pendant 2 mois. Le fonds euro, on peut en trouver qui va vous donner un rendement de 3%.
Cash rapporte.
Le cash rapporte pas mal. Et pour le battre, comme on le voit sur les indices boursiers, c'est pas évident d'aller trouver des valeurs dont on est relativement certain qu'elles vont finir l'année en hausse de plus de 3%.
Mais il y a ça et il y a aussi la possibilité de regarder du côté des aristocrates du rendement aussi parce que ça devient un enjeu.
Alors,
qui distribuent du dividende, qui rachètent leurs actions.
Alors il y a les aristocrates et puis il y a les kings, les rois.
Oui.
Les aristocrates, c'est des sociétés qui depuis plus de 25 ans versent tous les ans un dividende égal ou supérieur à l'année précédente, et les kings, les rois, ils font ça depuis 50 ans. Et il y en existe notamment aux US, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, Walmart en font partie. Et donc oui, c'est vrai que ce sont des valeurs qu'on peut considérer comme étant plutôt défensive dans la tourmente. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que suite à une correction, pour l'instant encore modeste, mais la baisse des cours depuis le début de l'année, fait presque de façon automatique que le rendement de dividendes sur certains titres à condition que ces titres, enfin, que ces valeurs maintiennent leurs dividendes par rapport à l'année dernière, mm-hmm. il y a des dividendes, enfin, des rendements de dividendes qui commencent à ressembler à quelque chose, hein. On peut commencer à espérer toucher du 4, voire 6% sur certaines banques européennes. C'est le même cas sur certaines boîtes pharmaceutiques. Et donc, on peut se dire, bah, tiens, oui, je risque d'avoir de la volatilité à court terme sur ces titres, mais pour peu que ces boîtes maintiennent leurs dividendes, rien qu'en dividendes, je peux me faire du 4, 5, 6%.
Ouais. Ouais, d'autant que, et on le voit, certains disent, oui, mais enfin, c'est le miroir aux alouettes, parce que plus on a de dividendes, moins le titre progresse, etc. Ouais, mais il y a un truc qui a changé le paradigme. Je regarde notamment du côté de l'infrastructure, côté des utilities. Il y a des titres qui progressent qui gavent leurs actionnaires.
C'est ça, la magie. Vous savez, les valeurs de rendement, les valeurs qui versent dividendes, c'est celles qui sont en cycle mature, qui ont moins besoin de financement et qui redonnent une partie de leurs résultats aux actionnaires. Et vous l'avez dit, Antoine, généralement, c'est des valeurs, il y a moins de croissance, donc il y a moins de plus-value à attendre, donc c'est une façon de récompenser l'actionnaire. Sauf que en ce moment, ça marche des deux côtés, puisque qui donne beaucoup de dividendes, les groupes notamment pétroliers, les énergéticiens. Alors on voit qu'en ce moment, c'est carton plein. Les valeurs réputées plus défensives, on pourrait parler des opérateurs télécoms, on pourrait parler des pharma, des bancaires, Marc l'a dit. Et en ce moment, alors les bancaires, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit qu'elles réagissent pas mal au conflit, mais en tout cas, la pharma, ça tient plutôt bien, etc. Donc là, c'est coup double, effectivement, c'est vraiment gagnant sur cette stratégie de valeurs de dividendes, donc ça peut être intéressant. Et sur la partie liquidité, je pense que c'est compliqué de faire une réponse générale parce que tout le monde n'est pas dans la même situation, mais ce qui est sûr, c'est que Marc l'a très bien dit, aujourd'hui, à un moment, avoir des positions en cash, ça coûtait, ça rapportait pas, donc il y avait très peu d'intérêt. Et au début de l'année, tout le monde était resté très exposé en actions parce qu'on prévoyait une année 2026 où la croissance allait rester forte, plutôt même mieux partagée avec un peu un décentrage des US et un rééquilibrage des émergents, etc. Et tout le monde mettait cette condition quand le conflit iranien s'est déclaré, à la condition que le conflit iranien reste de courte durée. Là, on est en train de passer sur autre chose. Donc, fondamentalement, si vous êtes... Et encore une fois, ça dépend de votre situation, mais si vous êtes très exposé, très investi sur des actions et autres, eh ben là, oui, ça peut valoir le coup. Alors attention, parce que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que la tentation de tout retirer, de tout sécuriser, c'est aussi, potentiellement, si vous êtes un investisseur de long terme, le risque de louper la hausse, c'est toujours ce qu'on dit, donc attention. Mais quand même, si aujourd'hui, vous étiez vraiment resté très, très exposé sur les actions, ça peut valoir le coup quand même de se laisser un petit coussin de sécurité.
Ouais. Effectivement, je regardais, vous parliez des valeurs financières en termes de pourvoyeur de rendement. Je regarde,
ah oui, c'est bien.
Rien que BNP Paribas, 2025, on est à 6%. Estimé 2026, 6,90. Et estimé 2027, 7,5. Ça commence à devenir des beaux gros aristocrates, voire même des petits princes. si on fait le classement. Oh, Marc, pendant des années, j'allais dire, on allait chez le banquier et on essayait de s'exposer un peu au marché actions, gentiment. Premier truc, on a un truc génial, c'est les produits structurés. On fait quoi là ? On est quand même dans un marché très instable, les produits structurés, par essence, il y a beaucoup de choses, c'est... c'est le gratin de poisson, comme on dit dans The Big Short. Il y a à boire et à manger. Est-ce que quand on est très exposé aux produits structurés, et ça peut arriver, et il n'y a pas de mal à ça, parce que c'est quand même des produits qui offrent du rendement et de la sécurité du capital, est-ce qu'il y a des choses à changer dans l'environnement actuel ?
Alors, je dirais plusieurs choses. Le premier élément, c'est qu'un produit structuré reste un produit financier complexe. Et donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut prendre le temps de bien les comprendre. Et surtout que, comme vous l'avez très bien souligné, dans le secteur des produits structurés, il y a énormément de choses qui peuvent être assez différentes les uns des autres. Les caractéristiques clés étant, est-ce que mon capital est pleinement garanti ou n'est que partiellement garanti et que dans certains scénarios catastrophes, je mets à risque mon capital, pour prendre un exemple. Le nombre d'indices sous-jacents sur lesquels on pourrait indexer et faire dépendre sa performance, pareil, c'est une grande, grande variable. Ensuite, je dirais qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ceux qui sont déjà investis sur des produits structurés dont les sous-jacents sont des indices boursiers, ils ont probablement vu leur valeur théorique baisser en ligne avec les marchés actions qui ont corrigé. Ce n'est pas une raison de paniquer. Ces produits sont justement conçus pour durer dans le temps. Typiquement, les échéances sont relativement longues, de l'ordre de 10, 11, 12 ans. Et ça veut probablement dire que ceux qui avaient l'espoir que des mécanismes de rappel automatique qui allaient s'activer potentiellement dans les trimestres à venir, qu'ils devront attendre un peu plus longtemps.
Bah oui.
Mais c'est pas pour autant que tout est perdu, c'est pas pour autant que les mark to market, enfin les revalorisations à la baisse vont être cristallisées. Vous pouvez toujours espérer ce fameux gain que vous avez visé initialement en y investissant. En revanche, pour ceux qui regardent aujourd'hui l'investissement en produits structurés, il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut souligner. Le premier, c'est que la volatilité étant plus haute, le pricing, les mécanismes de pricing qui rentrent en considération pour concevoir ces produits structurés sont un peu plus favorables et peuvent vous permettre de viser des rendements un peu plus élevés à structure égale. Le deuxième, c'est que si votre sous-jacent dépend d'un indice boursier, forcément, par la force des choses, votre point d'entrée sera probablement plus bas. Et dernier élément, vous l'avez dit, mais je le répète, l'avantage de ces produits et la raison principale pour laquelle nos clients mettent une partie de leur patrimoine, jamais la totalité, une partie de leur patrimoine dans ce type de produit, c'est que vous êtes protégé à la baisse, soit partiellement, soit totalement. Donc ça reste des instruments qui, même dans la tourmente, ou peut-être à cause de la tourmente, peuvent faire sens.
Bon, c'est plutôt une bonne chose. Laurent Grassin, on va terminer avec vous. Il n'y a pas de tech en Europe. Oh, ST Micro, Soitec, super performance en ce moment. On se remet à découvrir qu'on a des très bons acteurs de semi-conducteurs de pointe en France.
Oui, c'est en tout cas la redécouverte des marchés, puisque Soitec, je crois, on est à plus 170% depuis le début de l'année.
Oui, depuis le début de l'année.
STMicro, jusqu'à la semaine dernière, quelques jours, était devant aussi leader du CAC 40 devant Total Energy. Je crois qu'il s'est fait shipper sa place.
Ouais.
Donc effectivement, le marché redécouvre nos fabricants de semi-conducteurs.
Le marché redécouvre Grenoble, notre Silicon Valley à nous.
Parce qu'effectivement, il voit une inflexion de tendance.
Ouais.
Avec quand même des perspectives qui étaient en train de se redresser. Et sur Soitec, un petit peu de prudence quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de spéculation sur le titre. Je lisais dernièrement un article qui disait que c'était parce que peut-être un investisseur suivi sur X avait pris une position sur le titre.
On est quand même loin
du scénario de base.
Il y a de ça, ouais.
Voilà. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Soitec, dans sa position à certaines de ses technologies, est exposée au secteur de l'IA. C'est une valeur qui reste volatile, qui a été souvent extrêmement aussi pénalisée dans certaines phases de marché. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique de redécouvrir, en tout cas de voir que depuis le début de l'année, là aussi dans un contexte où les valeurs de la tech et de l'IA ont pu être pénalisées par ailleurs, eh bien nos deux champions français, que ce soit sur le CAC 40 ou sur le SBF 120, se distinguent. Prudence sur Soitec, je trouve que c'est allé très vite, très fort, avec pas beaucoup de news flow, comme on dirait, pas beaucoup d'actualité pour alimenter ce mouvement de hausse.
Le dernier gros news flow de Soitec, c'est très intéressant et ça explique pourquoi cette valeur va justement. Il y a pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux en disant que c'est devenu un meme stock.
Oui.
Oh, ça va, c'est pas GameStop,
il y a un outil industriel. Il y a quand même une vraie technologie derrière. Un
savoir-faire.
Oui, oui.
Et il y a à la fois une exposition à l'IA, à tout un tas de secteurs de croissance. Et parallèlement, leur dernier contrat, il était axé sur l'infrastructure, justement, sur la 5G, sur la bonne vieille 5G, les bons vieux réseaux télécom. Donc voilà, regardez Soitec comme ça.
Là aussi, on sera quand même content à un moment. On rembarque ça finalement dans toutes les thématiques de souveraineté, d'avoir des compétences, des savoir-faire qui sont ou européens ou tricolores, et on espère que là aussi ça se répercutera dans les carnets de commandes, de privilégier ces acteurs-là nationaux plutôt que d'aller chercher des compétences à l'extérieur.
Tout ça est capital. Laurent Grassin, Boursorama, merci d'avoir été avec nous. Marc Templeman, Cashbiz, toujours agréable avec vous parce qu'on passe de la géopolitique géante à vraiment votre quotidien en termes de placement et puis à nos entreprises qui font quand même le succès de la bourse et surtout en ce moment en ces temps agités. Merci d'avoir été avec nous. On passe aux arbitrages techniques.
Tout pour investir. Arbitrage.
Avec Mickaël Landreau. Bonjour Mickaël.
Bonjour Antoine.
Bon, une journée encore un petit peu compliquée sur les marchés évidemment. Bon. Pas de signe d'affolement total non plus. On perd 1,7% sur le CAC 40. On descend à 7831 points. La volatilité remonte un chouïa du côté des 25 points pour le VIX, l'indice américain de référence. Bon, est-ce qu'on est sur des supports valables? On a l'impression que, on a une baisse sensible, mais pas trop. que ça nous pendait au nez, d'une manière ou d'une autre, vu qu'on alignait trois séances de hausse consécutives avant. Quel est votre sentiment là en ce moment sur les niveaux actuels ?
Bah, déjà, Antoine, je suis content d'avoir donné des signaux d'alarme le mois dernier, quand même, d'avoir donné des conseils de prudence.
C'est vrai.
On va reprendre du coup où on en était, hein, justement, le mois dernier, lors de notre dernier entretien, à savoir que j'avais pris un achat sur les 8360 points pour viser 8430 points et 8570 points en TP2. Donc, objectif atteint. Hein. Par contre, bah, forcément, bah, le reliquat a sauté, Antoine, hein, avec le démarrage du conflit en Iran le lundi 4 mars. Et suite à cette news, bah, le marché a globalement perdu jusqu'à 10% avant de se stabiliser. Alors, bien évidemment, moi, dans ces mouvements, j'ai pris des achats, j'ai pris des shorts, j'ai eu les tech profits 1, mais à chaque fois, le reliquat a sauté, bah, justement, comme vous le mentionnez, à cause de la volatilité. Après, si on regarde dans le détail, Antoine, je trouve que le marché est quand même résilient. Alors, je vais être un peu cynique, je vais comparer avec le dernier conflit majeur qu'on a eu, à savoir la guerre en Ukraine. Et bah, si on regarde bien, le CAC était à 7000 points à ce moment-là, le baril de pétrole était à 120$ et on a perdu 20% en quelques jours. Alors que là, j'ai envie de vous dire, on a perdu seulement 10%. Donc le marché est quand même très résilient. Et au final, est-ce que le conflit en Ukraine est terminé? Absolument pas. Et ça n'a pas empêché le CAC de toucher des nouveaux plus hauts il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc, le scénario est toujours le même, Antoine. Le marché prend un peu peur, mais surtout price le risque. Et pour moi, il finira par s'habituer. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai trois scénarios. Le premier, un achat si on devait casser les 7975 points pour aller viser les 8060 et les 8198 points. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté mardi. J'ai eu le TP1, mais le TP2 a sauté. Un achat sur les 7770 points qui correspond au plus bas pour jouer un double appui. Et un short si on devait casser cette zone pour aller chercher les 7665 points, support majeur. Mais là encore, ça nous ferait que 11% de baisse depuis les plus hauts. Hein. Donc encore une fois, un marché résilient, Antoine.
Ouais, effectivement. Une dernière minute là, intéressante. Évidemment, c'est pas le climat du moment hein, d'acheter ce genre de valeur. Mais Ferrari est en baisse d'un petit peu plus de 2% à la bourse de Milan. Ferrari qui a annoncé une suspension temporaire de ses livraisons du côté du Moyen-Orient. On le comprend. Donc effectivement, ça explique ce retournement de tendance également chez les grands groupes de luxe et également pour l'automobile qui avait pas besoin de ça pour être en plein milieu de la crise, même si Ferrari était une valeur résistante. Est-ce qu'il y a un autre actif que vous suivez de près, là, ce matin ?
Prodway, je suis.
Prodway ?
Antoine, Prodway. Ouais, ouais. En effet, parce que...
une des très belles histoires de la tech, ces dernières années, ça a resté une introduction réussie à Euronext. Et puis, il y a eu finalement une sorte de léger désintérêt à propos de cette valeur, mais vous y voyez des choses intéressantes.
Oui. Bah, leader européen de l'impression quand même 3D, hein, Antoine. Ouais. Donc, moi, ce que je vois d'intéressant en ce moment, c'est la vente de la division software qui représente 35 millions d'euros. Alors, on va pas parler fondamental, Antoine, même si l'action qui coûtait 53 centimes se payait moins de 4 fois les EBITDA, mais on va s'intéresser au fait que la société va reverser une partie importante de cette vente. Et quand on sait que cette vente représente plus de 100% de la capitalisation boursière, ça promet un dividende intéressant. Ouais. Alors, je rappelle à la place qu'un dividende, c'est une opération blanche. C'est-à-dire que le montant du dividende est retiré du prix de l'action. Mais nous, on va jouer sur deux leviers. Le premier, sur le fait que le jour de cette news, l'action a pris 67%. Et elle a fini à plus 27%. C'est d'ailleurs là où j'ai payé à peu près en termes de tarifs, en termes de prix. Mais au final, vous voyez qu'il y a un delta important quand même, parce que le dividende peut représenter théoriquement plus de 100%, donc plus 27, plus 100%. Et je pense qu'avec le temps, avec le paiement du dividende qui va se rapprocher, l'action aura tendance à monter pour combler un peu ce delta. L'autre levier sur lequel on peut jouer, c'est le fait que je pense que ce ne sera pas forcément une opération blanche. En effet, je pense que l'action peut combler une partie de ce gap. Alors, pour être plus précis, je vais prendre un exemple simple. Une action qui est qu'à 2 euros verse un dividende de 1 euro. Donc, valeur théorique après versement du dividende, 1 euro. Mais l'action peut très bien ouvrir, Antoine, à 1,50 euro. Et résultat, vous avez 50 centimes de plus dans votre poche cette opération. Donc, en fait, on en saura plus au moment de la présentation des résultats la semaine prochaine, je pense. On aura tous les détails. Donc, si l'action venait encore à baisser, personnellement, je n'hésiterais pas encore à repayer parce que le delta sera encore plus intéressant. Et avec ce dividende, du coup, je crois quand même fortement à la hausse de l'action.
Ok, ben Prodways, effectivement. Michael Landreau, merci d'avoir été avec nous pour commenter ces évolutions techniques des indices et puis des valeurs toujours intéressantes hein, qui passent un petit peu sous le scope et qu'on redécouvre grâce à vous. On passe au marché immobilier dans quelques secondes. Restez à l'écoute hein, de Tout pour investir sur BFM Business. Où en est-on du marché immobilier? Le point complet avec Marie-Christine Sonquin des Échos dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Et on ouvre la boîte à outils avec Marie-Christine Sonquin des Échos. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous Marie-Christine ce matin. On va on va regarder un des outils les plus précieux de cette boîte à outils patrimoniale, un de vos placements préférés, bah oui, l'immobilier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point immobilier sur la tendance, les dynamiques de marché, surtout avec cette année qui s'ouvre. En termes de prix, est-ce que la reprise à laquelle on assistait ces derniers mois se confirme un petit peu?
Alors jusque-là, tout allait plutôt bien.
Quand soudain,
voilà, à un printemps de l'immobilier, il y avait un consensus pour dire que les prix allaient légèrement augmenter en 2026. On se situait à un peu moins de 1%. Donc vraiment, on s'attendait à une bonne reprise pour l'immobilier. Alors pas spécialement en termes de prix, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément une mauvaise nouvelle, mais en termes d'activité. Et puis l'immobilier, c'est quand même la valeur refuge par excellence.
Complètement.
Et puis de toute façon, il faut se loger, ne serait-ce qu'avoir sa résidence principale. Alors actuellement, bien évidemment, avec la guerre en Iran, les cartes sont quand même rebattues. Parce que tout a une influence, tous les facteurs économiques ont une influence très importante sur l'immobilier. Et le facteur le plus important, c'est celui des taux d'intérêt. Donc, qui dit tension sur les taux d'intérêt, dit problème sur l'immobilier. Donc, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement difficile de faire un pronostic. Donc, il y a le côté, effectivement, immobilier, valeur refuge, tout va mal, on essaie de sécuriser son patrimoine, que ça soit côté résidence principale ou côté investisseur. De l'autre, reprise de l'inflation. Alors là, ça peut aussi jouer en faveur de l'immobilier parce que l'immobilier protège relativement bien contre l'inflation dans la mesure où les loyers sont indexés sur l'inflation.
Mais effet du coup, négatif, les taux tendent.
Hausse des taux, ça veut dire évidemment effet sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que les ménages ont plus de mal à emprunter pour leur résidence principale. Pour les investisseurs, ils ont aussi plus de mal à emprunter. Mais surtout, c'est beaucoup moins intéressant d'investir dans l'immobilier parce qu'il faut un différentiel, bien sûr, entre le coût de l'argent et ce que va leur rapporter l'immobilier. Donc, bien sûr, il y a un arbitrage qui se fait et la hausse des taux, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'immobilier.
Puis, on le voit sur les marchés obligataires, on a malgré des anticipations de statu quo de la BCE qui va être très, très prudente, on a des anticipations de hausse de taux assez étonnantes. Donc, du coup, ça durcit un petit peu les conditions d'emprunt en ce moment.
Alors, pour l'instant, ça ne se voit pas, puisque les barèmes sont ceux qui ont été communiqués début mars.
Oui, mais...
Et les nouvelles étaient plutôt bonnes.
Ouais, ouais.
On assistait, on grappillait encore une petite baisse de quelques points de base, voire quelques dizaines de points de base, avec des taux qui restaient quand même très raisonnables, de l'ordre de 3,40 pour un emprunt sur 20 ans, en moyenne, bien sûr, hein, parce que les très bons dossiers peuvent accéder à des conditions de crédit encore beaucoup plus favorables. Mais quid demain? Est-ce que les banques vont prendre peur? Est-ce qu'elles vont vouloir prendre plus de marge? Alors pour l'instant, on était plutôt dans un contexte de compétition entre les établissements qui cherchaient justement à ramener de nouveaux clients. Et c'est vrai qu'une des armes favorites des établissements bancaires pour conquérir de nouveaux clients, eh bien, ce sont les taux de crédit immobilier. Et en ce moment, on est encore pas mal placé. Les établissements offrent des conditions de crédit qui sont relativement avantageuses. Quid demain, c'est la grosse incertitude.
Bon, et face à ça, évidemment, on va être beaucoup plus sourcilleux et pointilleux sur ce que nous rapporte l'immobilier, sur les rendements. De quelle manière on peut appréhender et se fixer comme objectif en termes de rendement sur un investissement immobilier en ce moment?
De toutes les manières, il faut que le rendement de votre immobilier soit 1 à 2 points au-dessus de ce que vous coûte l'argent.
2 points.
Après, il y a d'autres paramètres qui sont extrêmement importants quand on décide de faire un investissement immobilier. L'un des premiers, c'est quelle est la demande locative dans le secteur dans lequel je compte investir. Parce que vous avez parfois sur le papier des taux de rendement extrêmement élevés qui peuvent être très tentants, puisque les loyers restent relativement hauts par rapport à ce que va vous coûter cet investissement. En revanche, si vous n'avez pas de locataire, ben, ce beau rendement, il va rester écrit sur le papier, mais il ne va pas se retrouver dans votre portefeuille. Donc, il faut être extrêmement attentif. Autre chose qu'on oublie aussi souvent quand on fait un investissement immobilier, c'est la liquidité du bien.
Tout à fait. Ouais, c'est capital même.
Le jour où vous allez vouloir revendre, est-ce que vous allez attendre 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 3 ans? Parce qu'on voit parfois des propriétaires immobiliers qui restent avec des biens sur les bras. Alors évidemment, si vous écrasez le prix, vous finissez de toute façon par vendre. Mais cette notion de liquidité, elle est trop souvent occultée. Elle est extrêmement importante. Alors, où se trouve la meilleure liquidité? Bien sûr, ce sont dans les grandes villes, les villes qui sont des bassins d'emploi, les villes dont la population augmente. Donc ça, ce sont des critères aussi extrêmement importants. Et puis, il faut faire aussi, bien évidemment, aujourd'hui, très attention aux DPE. Hein, parce que, mais bien sûr, avec les interdictions de louer qui pendonnaient des propriétaires et qui vont tomber année après année. Donc, il faut voir si le bien dans lequel vous investissez a un bon DPE. Et si ce n'est pas le cas, parce que c'est pas, ça ne doit pas être repoussoir, il faut vraiment évaluer quels travaux vous pouvez faire de manière à gagner ce DPE. Alors, attention, parce que parfois, vous vous dites, bon, j'investis, c'est pas cher, et je vais faire les travaux... qui vont bien, mais vous ne pouvez pas forcément les faire parce que ça va être un immeuble haussmannien, parce que ça va être un bien très petit et si vous ne pourrez pas faire de l'isolation par l'extérieur et l'isolation en intérieur, ça va vous prendre de la place, donc ça va vous manger une partie de votre rentabilité. Donc, c'est des choses auxquelles il faut être extrêmement attentif avant de se décider et avant de réaliser un investissement.
Toute petite question pour terminer, hein. Il nous reste une trentaine de secondes, mais globalement, on en parlait déjà hier sur le marché des SCPI. On avait un intervenant, David Seksik de Remake, qui nous disait attention au rendement alléchant à nouveau, hein, parce qu'on sait qu'on est passé par des années de crevaison d'une bulle spéculative un petit peu autour de cette forme de placement immobilier. Là, le marché reprend. Il nous dit attention au rendement trop alléchant, il ne faut pas en attendre trop. Et là aussi, il faut vraiment être très sourcilleux sur la liquidité. Vous pensez un petit peu la même chose ?
Absolument, il faut être prudent. Alors, c'est vrai qu'il y a une foule de nouvelles SCPI qui affichent des rendements extrêmement alléchants. Attention, il faut voir dans quelle mesure elles seront capables de délivrer ce même rendement dans la durée. Or, le fait est que ça ne sera probablement pas le cas. Alors, ça ne va pas forcément écraser complètement le rendement de la SCPI, mais il faut s'attendre vraiment à perdre quelques points par rapport aux rendements faciaux qui sont affichés. Et là encore, être extrêmement prudent, bien diversifié et regarder le portefeuille de la SCPI, voir vraiment quel est le potentiel de rendement dans la durée.
Encore du palpable, hein, du concret. N'hésitez pas à aller voir directement les actifs qui sont gérés par cette SCPI. C'est toujours, c'est toujours bien mieux et ça aide à faire des investissements beaucoup plus judicieux. Marie-Christine Sonquin des Échos, merci infiniment d'avoir été avec nous. Tiens, on va parler un petit peu private equity tout de suite.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Avec Pierre-Marie de Fortville d'Ivesta, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors avec vous, on va faire un point sur le marché du private equity. Parce que c'est vrai que depuis quelques mois, on a eu énormément d'initiatives à ce sujet pour faire rentrer le private equity dans le portefeuille de tout un chacun. Parce qu'il y a du rendement. Alors au prix d'une liquidité qui est immobilisée pendant des périodes extrêmement variables. Mais en nous vendant ça comme finalement peut-être beaucoup plus performant que la bourse, que les marchés monétaires, que ceci, que cela. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir un petit peu d'un doux rêve et de revenir un petit peu à la réalité là aussi, sur le private equity?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une période assez schizophrénique pour les investisseurs, puisque nous avons aujourd'hui... le private equity, qui était une classe d'actifs très institutionnelle, qui a connu une hypercroissance depuis 20 ans, puisque les actifs du private equity sont passés à peu près de 1500 milliards de dollars à aujourd'hui à peu près 15 000 milliards de dollars. Donc c'est une classe d'actifs qui a fait x10 en taille en 20 ans, avec des croissances assez fortes, des performances largement supérieures évidemment à la bourse. Et là, depuis 3-4 ans, à l'heure où le private equity commence à infuser dans le marché retail auprès de ses investisseurs privés. Nous, qu'on a commencé le private equity il y a 10 ans, C'était un marché très institutionnel. Le simple fait d'avoir accès était un avantage comparatif. Aujourd'hui, on en trouve à chaque coin de rue. Il y a même plus de fonds de private equity que de McDonald's aux États-Unis, puisqu'il y en a 18 000 fonds de private equity aux États-Unis contre 16 000 McDonald's, ouais. Pour la petite anecdote.
C'est un chiffre qui parle, hein, toujours.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, la bourse, le MSCI World, surperforme le private equity sur cette séquence de 3 ans. Donc on pense qu'on est, chez Ivesta, dans une période vraiment de transition. On entre dans un cycle 2 du private equity, dans une certaine maturité. Le private equity vit un peu sa crise d'adolescence, donc tout n'est pas rose, tout n'est pas linéaire, et des doutes, évidemment, surgissent. Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Surtout pas, d'autant que, encore une fois, le private equity, c'est du temps long. C'est de l'investissement long. On a vu qu'il y avait énormément de problématiques issues du dynamisme de certains secteurs économiques qui avaient animé le marché. On pense au secteur de la défense. Le fonds de BPI France, on n'en parle même pas, mais c'est vraiment investir dans le concret, dans le tissu industriel. Il y a également tout ce qui est infrastructure, qui est une dynamique de développement très intéressante. Est-ce que vous pensez que la maturité de ce marché du private equity peut passer aussi par se consacrer au secteur dont on a le plus besoin et qui bénéficie des meilleures perspectives de croissance? Bref, être plus sélectif.
Oui, tout à fait. Alors, être beaucoup plus sélectif sur... notamment sur les performances passées. Beaucoup de gens, évidemment, pour investir, se basent sur les performances passées. Le monde du retail, les distributeurs dans le monde du retail l'ont bien compris et vendent les performances extraordinaires, hein. Des performances passées. Ouais. Pour autant, à performance égale, les facteurs de performance ne sont pas les mêmes. Et certains, on pense, ne sont pas reproductibles. Vous prenez par exemple, pas tous, mais beaucoup de fonds large cap qui investissent sur les grosses sociétés. Quand on regarde leur performance, ça a été principalement lié à l'accroissement des multiples, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des sociétés 7, 8 fois les EBITDA, qu'ils ont vendu 12, 13 fois les EBITDA, toutes choses égales par ailleurs, et au levier financier. Donc c'était surtout des performances liées à de l'ingénierie financière ou à des facteurs exogènes financiers. A contrario, il y a d'autres fonds qui vont faire peut-être une performance un peu moindre ou équivalente, mais qui génèrent leur performance de par la croissance opérationnelle des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Ceux-là, on pense, seront plus reproductibles. Et après, sur les thématiques infra, défense, etc., oui, bien sûr, ce sont des secteurs porteurs, mais attention justement à la concentration sectorielle, puisqu'on voit bien aujourd'hui, justement, avec la concentration de certains fonds sur les boîtes de logiciels de SaaS, que ça peut aussi se retourner et que la martingale n'est pas structurelle.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un petit vent frais qui est en train de souffler avec un wording qui clignote, avec marqué « dette privée américaine » qui pourrait refroidir un petit peu les investisseurs sur ce marché du private equity?
Oui, bah tout à fait. C'est vrai que ces événements qu'il y a d'illiquidité en fait qu'il y a sur la dette privée américaine dans un marché assez retail où on a promis la liquidité sur des sous-jacents illiquides, ça c'est pour moi typiquement l'erreur que font beaucoup d'investisseurs en s'imaginant en ayant l'illusion de pouvoir investir sur des actifs illiquides tout en bénéficiant de liquidité. Et on voit bien les travers que ça cause. Et quand le marché, là où il faut patienter et être patient sur du capital long et qu'on veut retirer sa liquidité, ça crée des crises de liquidité qui accroissent la crise sous-jacente elle-même.
Bon, au-delà de toutes ces problématiques de dynamisme sectoriel, peut-être de facteurs exogènes qui peuvent perturber un petit peu le marché, quand on veut s'intéresser au private equity et en mettre dans son portefeuille, comment on sélectionne un fonds? Quels sont les paramètres à regarder en priorité?
Vraiment, le paramètre principal à regarder, c'est se faire une conviction sur la reproductibilité de la performance passée. Et donc, comme j'expliquais juste avant, c'est la vraie question, c'est comment a été constituée cette performance passée? Est-ce qu'elle a été constituée par de l'ingénierie financière ou est-ce qu'elle a été constituée par de la croissance opérationnelle des sociétés sous-jacentes, donc de la croissance de chiffre d'affaires et de EBITDA très concrètement?
Bien sûr.
À quel point l'équipe de private equity que vous allez sélectionner, elle est impliquée dans les sociétés, elle arrive à les transformer et à faire de la consolidation sectorielle ou à continuer une croissance organique très forte. Ça, c'est le premier sujet dans la sélection. Et attention au miroir aux alouettes, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de fonds qui ont fait leur performance grâce à l'accroissement de la classe d'actifs en tant que telle, qui, elle, ne sera pas reproductible dans les prochaines années. Et le deuxième sujet, c'est la place de ce private equity dans votre allocation d'actifs. Et le gros sujet de ça, c'est, comme dans les énergies renouvelables, c'est le problème de l'intermittence des capitaux au travail. Quand vous êtes en bourse, vous êtes investi 365 jours sur 365. Dans le private equity, sur une période de 10 ans, sur un fonds donné, vous êtes investi plutôt à 40-50% maximum.
Et oui.
Donc un TRI qui serait à 12 sur le private equity, mais si vous êtes investi à 40-50%, vous allez faire 5-6% annualisé en réalité. Je préfère faire du 8% en bourse MSCI World, 11% sur les dernières années, et être 100% liquide.
Ouais, totalement.
Donc tout le sujet, c'est le cash management, ce qu'on appelle le cash drag, qui est le gros contributeur à la performance aussi en private equity. Donc c'est aussi l'organisation de l'approche de la classe d'actifs qui est aussi importante que la classe que le fonds sélectionné en lui-même ou les fonds sélectionnés.
Et si dans un portefeuille idéal, vous mettriez combien de private equity en termes de proportion? Dans une bonne allocation d'actifs.
Tout dépend en fait de vos besoins de liquidité. C'est toujours pareil. Nous, chez Ivesta, nos clients ont 40% de private equity, enfin de private market au sens large. Donc c'est du private equity, c'est la private dette des infras et l'immobilier un petit peu aussi.
Okay.
Mais donc ça, chez nous, c'est 40%. On se calque beaucoup sur les on-demand, qui sont les meilleurs investisseurs en ratio risque-rendement. Les on-demand, ce sont les fonds propres des universités américaines qui, sur les dernières décennies, sont les meilleurs performeurs ajustés du risque.
Et l'autre solution, enfin certains investisseurs y pensent aussi, c'est pourquoi ne pas investir dans des fonds de private equity ou des sociétés d'investissement très exposées au private equity qui sont cotées en bourse. On pense à, je sais pas, Wendel, Euraseo, ou alors des gros, des BlackRock, des Blackstone. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution judicieuse ou qu'il faut plutôt mettre la main sur l'actif en lui-même pour bénéficier du rendement maximal?
Les deux en général. Il y a pas de, vous jouez pas du tout la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui en plus en bourse avec les sujets qui le doute qu'il y a en ce moment dans cette période de transition sur notamment le SaaS, la private debt, vous avez des fonds qui sont des sociétés de gestion de private equity, donc des GP comme on dit, qui sont cotés en bourse comme Blackstone et des sociétés de gestion comme ça qui ont pris et qui sont aujourd'hui je crois à moins 30 voire moins 40% en bourse.
Bien sûr.
Pour certaines à cause du stress qu'il y a en ce moment sur la classe d'actifs. Donc là ça peut être effectivement un bon momentum pour rentrer sur ces sociétés de gestion, sur ces titres-là en bourse. Mais là vous jouez plus le recovery notamment par la retailisation du private equity et pas forcément la performance des fonds sous-jacents. Parce que aujourd'hui, ces acteurs sont devenus énormes. Je ne suis pas certain que ce soit ces acteurs qui produisent les meilleures performances dans les fonds sous-jacents. En revanche, ils auront une récurrence des revenus sur les 10 prochaines années. Ils ont une marque très très forte qui, pour le marché retail, permet d'aller se mettre un peu dans toutes les couches retail de tous les distributeurs dans le monde.
Ça peut être intéressant aussi. Pierre-Marie de Fortville Ivesta, merci infiniment.
Merci Antoine.
Avec nous pour faire ce point très complet sur le marché du private equity. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes et on va parler investissement dans les bijoux de collection avec un spécialiste de l'investissement et avec une gémologue. Et oui, une spécialiste des bijoux. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Coffre-fort de grand luxe, vous savez, avec les présentoirs en velours. On va parler de l'investissement dans les bijoux anciens. Et investir dans les bijoux, ça demande du savoir-faire. Si vous n'en avez pas, ça demande de consulter des spécialistes. Et on en a deux sur le plateau aujourd'hui. Pierre-Jean Galadima de Sapiens, que vous avez l'habitude.
Sous les mains de Jean.
Qu'est-ce que j'ai marqué?
C'est pas grave.
Sous les mains de Jean Galadima. Laissez tomber, ça c'est, faut que je me reconcentre. Et Virginie David, vous êtes spécialiste des bijoux et gémologue.
Bonjour.
Diplômée, bonjour. Chez Rési, c'est pas souvent qu'on a des gens de la spécialité sur le plateau, donc merci d'être là. Parce qu'investir dans les bijoux anciens, c'est pas non plus si intuitif. Il faut s'y connaître un petit peu. Quels sont les principaux éléments de tendance de cet investissement dans les bijoux, dans cette connaissance du marché aussi et cette volonté de s'y exposer? Alors, les mains de Jean.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on sait que de tout temps, de l'Antiquité jusqu'à l'ère moderne, en passant par la Renaissance, tout le monde a toujours investi dans les pierres précieuses. Ce que l'on voit, nous, au niveau de nos clients du Multifamily Office Sapiens, c'est qu'on voit des clients de plus en plus jeunes. Que ce soit des entrepreneurs qui ont fait un cash-out partiel ou total, que ce soit également de jeunes héritiers, il y a un peu cette tendance qu'on appelle du luxury investing, de l'investissement dans le luxe, qui peut être soit en fait une recherche d'investissement un peu statutaire, soit effectivement un investissement, une diversification dans leur patrimoine.
Et c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a quand même quelque chose de contre-intuitif là-dedans. On va parler très trivialement. On se dit, mais les pierres précieuses, c'est des trucs de personnes âgées.
Non,
les jeunes s'y mettent. Ils n'ont pas forcément envie d'une Rolex. Ils ont envie d'investir dans des pierres. Et ça, effectivement,
il y a un historique, il y a entre guillemets une mode sur ce sujet, et pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est un actif tangible qui peut être facilement transporté en cas de crise. C'est un actif aussi qui a connu une forte valorisation ces dernières années, puisque l'or a quasiment fait 175% depuis les 5 dernières années. Virginie en reparlera, saphir du Cachemire a fait x4 de valorisation entre 2013 et 2024. Et oui. Donc, il y a, voilà, pour certains patrimoines, une volonté aussi de chercher des actifs riche en décorrélation, parce que c'est un actif qui est fortement décorrélé des marchés financiers, et donc une volonté d'investir, et un marché qui est en pleine croissance, puisque on parle en 2024 d'environ 420 milliards, on projette en 2033 près de 550 milliards d'euros à l'échelle globale sur ce marché, et avec également de nouvelles géographies, notamment asiatiques, qui se développent sur ce marché. Donc une volonté pour certains de nos investisseurs de s'y exposer, mais attention, marché avec une grosse asymétrie d'informations, marché très complexe, d'où l'intérêt de faire appel à des spécialistes.
Oui, c'est super complexe. Virginie David, donc vous êtes spécialiste, vous êtes gémologue. C'est vrai qu'en plus, bon, quand on se dit, allez, investir dans les pierres précieuses, dans les bijoux, c'est un peu comme investir en bourse ou sur les produits financiers. Il y a une multitude de variétés de supports, finalement. Alors, c'est vrai qu'on part du diamant brut, incolore, etc., pour aller vers des pierres qui ont une multitude de spécificités, une multitude de valeurs, une multitude de rendements aussi.
Oui, alors pour investir dans les bijoux et les gemmes, il faut déjà privilégier la rareté. Et la rareté, qu'est-ce que c'est ? Alors pour le diamant incolore, aujourd'hui sur le marché, ce qui est valorisé, ce sont les diamants ronds taille brillant qui vont être triple X, c'est-à-dire trois fois excellent en termes de poli, de symétrie, de proportion. Et ce sont des diamants qui ne sont pas fluorescents. Après, il y a aussi le marché des diamants de couleur. Et là, ce qui va être rare, c'est tout simplement leur couleur. Puisque moins d'1% des diamants sont naturellement colorés. Les rouges sont les plus rares, les violets, les verts, les bleus, les jaunes. Et là, on va regarder l'intensité de la couleur et on va chercher ce qui est fancy, vivid. Après, il y a aussi les pierres de couleur qui sont importantes dans l'investissement. Et là, pour les pierres de couleur, on va regarder la couleur, l'homogénéité. On va regarder aussi l'intensité de la couleur. Et également, on va regarder si la couleur est pure. On va toujours préférer, par exemple, un rouge pur à un rouge violacé. Mmh. Et pour les pierres de couleur, ce qui est important aussi, c'est la provenance géographique. Souleymane Jean a parlé du saphir du Cachemire. C'était une mine qui était exploitée autour de 1880 en Inde. Et ces saphirs sont intenses en couleur, avec une matière très veloutée, très belle. Mmh. Et ils vont partir aujourd'hui aux enchères autour de 50 000, 60 000 euros le carat. Un carat égale 0,20 grammes.
Oui.
Les rubis de Mogok aussi. Mogok est vraiment la source historique. Donc, on va en retrouver aussi aux enchères qui vont être très valorisées. Et aujourd'hui, si on trouve des rubis sur des bijoux neufs, ça va être plutôt les rubis du Mozambique qui sont très beaux. Et ça, c'est lié au contexte géopolitique du Myanmar. Et puis, les émeraudes de Colombie qui sont connues. On les exploite depuis 2500 ans. Elles sont commercialisées depuis le 16e siècle. Et elles sont aussi donc très valorisées sur le marché. Mais il y a les gemmes, il y a aussi les bijoux.
Oui.
Et les bijoux, on peut les porter. C'est vraiment un actif qui est tangible. On peut avoir le plaisir de les porter. Pour investir, les collectionneurs vont plutôt privilégier des noms qui sont incontournables, comme aujourd'hui Suzanne Belperron. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Suzanne Belperron, elle ne signait pas ses bijoux. Elle disait que son style était sa signature.
Donc il faut les reconnaître.
Ça, d'autant c'est... plus, il faut faire appel à un professionnel qui a notamment accès aux archives pour pouvoir attester de cette création. Et puis, je pense à d'autres noms, la Maison Jarre, Sterlet, Lalique, Templier, également Vendôme, qui vont aussi être des noms qui vont être très prisés sur le marché. Je pense à René Boivin également. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi les bijoux qui sont iconiques. Alors, je pense particulièrement à la collection Alhambra de la maison Van Cleef & Arpels, qui est très demandée. Les bijoux vintage d'Alhambra, ils sont beaucoup plus valorisés en seconde main, finalement, qu'en prix neuf, puisqu'il y a cet effet de rareté. La maison Cartier aussi va très peu décotée. sur le marché. La marque est importante. Sont des bons investissements. Et alors là, le conseil, c'est surtout si on va acheter et vendre, c'est vendre avec l'écrin, le certificat de la maison. Ouais. Également, et si possible, la facture, ce qui est mieux.
Et effectivement, faire confiance à des spécialistes et des gens du métier. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Souleyman Jean Galadima de Sapiens, Virginie David, gémologue, pour nous avoir intéressé à ce marché des pierres précieuses et des bijoux. Il faudra que vous reveniez tous les deux pour qu'on fasse un point régulier là-dessus. Avant de nous quitter, un petit top 4 de ce que vous avez aimé sur la semaine écoulée. Parce que vos choix sont très signifiants et puis ça nous permet de coller le plus à vos besoins, à vos demandes, à vos attentes en matière de conseils pour bien investir, pour bien épargner. Et si on regarde le top de ce que vous avez le plus téléchargé en replay et en podcast, vous êtes vraiment passé en mode défensif. Épisode le plus téléchargé, c'était celui du 12 mars. Le coffre-fort, comment gérer la volatilité des marchés. Bon, autant dire qu'il y a une certaine logique. Deuxième épisode le plus téléchargé, c'était le même jour, c'était la boîte à outils, investir en toutes circonstances, les stratégies tout terrain, c'était absolument passionnant. Troisième chronique la plus téléchargée, le placement à suivre, c'était les small et mid cap, le journal des small et mid cap de la semaine dernière, effectivement des valeurs un petit peu décorrélées des turbulences boursières. Enfin, quatrième, c'était la géopolitique qui réveille les cours de l'or. Alors on voit que c'est un mécanisme un petit peu compliqué et ça c'était une chronique du 16 mars. Merci infiniment d'avoir été à notre écoute. Demain c'est la masterclass à cette même antenne avec Christopher Dembick. Je vous laisse avec Marie Cœur de Roi, les experts IMO, et je vous retrouve tout à l'heure à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. À tout à l'heure.
Tout pour investir. Merci, Antoine. Sur BFM Business.